Nous allons à présent aborder notre deuxième thème. Nous allons parler de la mortalité maternelle et infantile. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour réduire les taux de mortalité? Vous savez, en RDC, selon UNFPA, près de 850 femmes sont mortes en couche sur 100 000 naissances vivantes pendant la période de juin 2014 à juin 2015. D'après les experts, la plupart de ces décès maternels sont causés principalement par les hémorragies sévères après l'accouchement, les infections et l'hypertension pendant la grossesse. Alors, que faut-il faire pour réduire le taux de mortalité maternelle en République démocratique du Congo? Pour en parler, nous recevons Dr Abedi Bilanda, chargé des programmes des soins obstétricaux d'urgence, SONU, au Fonds des Nations Unies pour la population. Dr Abedi, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Et merci.
Bonjour à tous.
Ben voilà. Alors, dites-nous, docteur, quelles sont les causes à la base de la mortalité maternelle et infantile?
Ok. Tout d'abord, je vais définir ce que c'est la mortalité maternelle pour qu'on ait la même compréhension. En fait, la mortalité maternelle, il s'agit d'un décès d'une femme, lors de la grossesse ou lors de l'accouchement ou dans les 42 jours qui suivent l'accouchement. Et ce décès est lié à une cause qui a un lien avec la grossesse. Donc, comme cause, nous avons les causes indirectes et les causes directes qui sont médicales. Pour les causes directes médicales, comme vous l'avez dit, nous avons les hémorragies, et nous avons les septicémies qui sont des infections généralisées. Nous avons les avortements qui surviennent surtout chez les jeunes, les avortements clandestins. Et nous avons aussi les ruptures utérines. Comme cause indirecte, nous pouvons parler du paludisme qui tue les femmes en grande majorité, celles qui sont enceintes. Et nous avons aussi les anémies, une carence en fer chez une femme enceinte conduit à une anémie qui peut conduire à un décès maternel. Nous avons aussi le VIH-SIDA qui est l'une des causes indirectes de mortalité maternelle. En dehors de ces causes médicales direct et indirect, il faut aussi associer des facteurs favorisants. Et nous avons des facteurs liés à la fécondité de la femme. Parmi ces facteurs, nous avons la notion des quatre trop. Dans cette notion, nous avons les grossesses trop nombreuses, les grossesses trop précoces et les grossesses trop rapprochées et les grossesses trop tardives, qui sont des situations qui favorisent les décès maternels chez la femme. Ensuite, nous avons des facteurs liés au statut de la femme. Donc, nous avons des facteurs socio-culturels qui jouent sur le statut de la femme, qui influencent le statut de la femme par rapport à son autonomie, à sa prise de décision, à sa santé, à sa fécondité. Et tous ces facteurs-là ne sont pas favorables pour que la femme s'épanouisse pleinement lorsque elle a une grossesse, lorsqu'elle veut prendre une décision pour espacer ses naissances, lorsqu'elle veut prendre une décision pour se rendre dans une structure de santé de son choix pour recevoir des soins de qualité. Et cela peut être des facteurs qui favorisent le décès chez une femme enceinte. En dehors de cela, nous avons aussi les mariages précoces qui entraînent des grossesses précoces chez la jeune fille et chez la jeune femme en mariage. Mmh. Et ces grossesses précoces sont des grossesses qui conduisent souvent à des états morbides chez la femme et qui entraînent un décès maternel. Comme conséquence néfaste, quand on a une grossesse précoce, nous pouvons mentionner la fistule obstétricale.
Mais parmi toutes ces causes à énumérer, quelle est la grande cause, ou disons la cause la plus importante qui cause beaucoup plus de cas de décès?
Nous avons les hémorragies qui sont entraînées suite à tous ces facteurs que nous venons de vous mentionner. Nous avons aussi la notion des trois retards qui est très importante. Dans cette notion, nous avons le premier retard qui concerne la communauté. Et par rapport à ce retard, nous avons mentionné le statut de la femme dans la prise de décision qui ne peut pas d'elle-même prendre la décision. Le premier retard, c'est un retard dans la prise de décision pour aller fréquenter la structure de son choix pour une prise en charge dans les meilleurs délais. Souvent, nous avons des femmes qui ne savent pas reconnaître les signes de danger lorsqu'elle est enceinte.
Et on dit souvent que, par exemple, dans les milieux ruraux, les centres de santé sont très éloignés.
Oui, j'y arrive.
Les habitations.
J'y arrive. Donc, lorsque la femme est enceinte et qu'elle ne sait pas reconnaître les signes de danger et aussi son entourage, cela cause un problème. Parce que dès qu'un signe se manifeste, ils ne savent pas prendre une décision rapide pour fréquenter un centre de santé et recevoir les soins appropriés. Et c'est le premier retard qu'on a dans la prise de décision pour fréquenter un centre de santé pour avoir des soins adéquats. Le deuxième retard, c'est par rapport à la géographie, donc l'accessibilité géographique. Le temps qu'il faut mettre pour rejoindre une structure qui peut offrir des services adéquats. Et cela, souvent, ça arrive souvent en milieu rural où nous avons des très grandes distances entre le lieu de résidence et la structure de santé qui offre des services d'accouchement de qualité et des services adéquats pour la prise en charge des complications. Ces structures qui offrent ces services sont très éloignées et parfois la femme doit prendre plus de 2 heures de temps pour rejoindre ces structures. Donc ce sont des facteurs qui favorisent les décès maternels. Le troisième retard c'est au niveau des structures elles-mêmes, dans le retard pour assurer une prise en charge adéquate. Cela peut être dû par l'incompétence du personnel de santé.
Et on dit cela que dans des établissements, dans des hôpitaux, lorsque la femme enceinte arrive et qu'elle n'a pas l'argent pour payer, on ne la touche pas, on ne la prend pas, on ne lui offre pas des soins et cela peut aboutir à un décès.
Oui, nous savons tous que lorsque une urgence arrive, un cas d'urgence arrive, surtout chez une femme enceinte, il serait mieux de la prendre en charge et de voir les questions immédiatement et de voir des questions connexes après. Donc, le personnel de santé se doit d'assurer la prise en charge rapide de ces femmes qui viennent avec des complications ou une femme dont la complication survient directement dès qu'elle arrive à l'hôpital, il faut les prendre en charge avant de poser des questions d'argent ou d'autres questions connexes.
D'accord. Des questions dans la salle par rapport à ce thème ?
Il y en a, j'ai le micro.
D'accord, allez-y, vous avez le micro.
Je suis M. Ignace Boyabiza, un expert en développement. La question que je pose est liée justement à la prise en charge médicale. Dans le quartier périphérique de la ville de Kinshasa, très souvent, d'abord ce sont des dortoirs, et c'est là où il y a le taux élevé de ces cas de mortalité maternelle. Les familles sont tellement pauvres.
Dans quel quartier par exemple?
Nous sommes dans la commune de Kimbanseke, Kingasal.
Ok.
Vous avez même des maternités là qui sont tenues par des religieuses que vous savez souvent très fréquentées. Et les femmes sont là-bas comme dans un poulailler. Très nombreuses. Elles accouchent. Alors, elles accouchent en moyenne, sans trop exagérer, 50 à 100 naissances par jour. Mais qu'est-ce qui se passe? Le frais de consultation CPN, je touche l'aspect CPN. Parce qu'avant d'arriver à l'accouchement proprement dit, il y a cette étape qui précède. Qu'est-ce que vous pensez que la responsabilité de CPN puisse jouer un rôle pour freiner justement des cas de cause de mortalité maternelle, que ce soit des facteurs auxquels vous aviez fait allusion, qui sont autres que la maladie, parce que c'est au cours de CPN qu'on peut prévoir justement le cas de paludisme par exemple. Donc je dis quelles sont les précautions qu'on prendrait pour éviter ce taux de prévalence de mortalité maternelle.
Merci, ingénieur Biza. Nono, de l'autre côté.
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est Rachel Njonjo.
Oui.
J'ai juste une seule question. Vous l'avez posée aussi, j'aimerais encore reposer la question. Vous avez parlé de soins de santé qui se trouvent un peu loin de la maison. Alors, madame, vous avez parlé des hémorragies. C'est ce qui cause plus la mort de la femme. J'aimerais savoir, y a-t-il les moyens d'arrêter l'hémorragie avant que la femme arrive à la maison, par exemple, si le soin de santé est loin de la maison?
Arrêter l'hémorragie avant d'arriver à l'hôpital.
Avant d'arriver à l'hôpital.
Oui. D'accord. Bien. D'autres questions, oui?
Oui, merci pour la question. Je suis Rachel Foufoulouzolo. Je voulais poser une question par rapport à la femme qui n'a pas suivi la CPN dans un hôpital quelconque. Et quand elle a des contractions et que l'hôpital est très loin de chez elle, elle va à l'hôpital qui est à côté. Et on ne veut pas la recevoir parce qu'elle n'avait pas eu le CPN à cet hôpital-là. C'est la question que je voulais poser. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui meurent à cause de ça.
D'accord. Merci, Nounou.
Merci, c'est Monsieur Mouzi, un expert en environnement. Alors... ma question est celle-ci. J'aimerais un peu poser la question au docteur pour savoir quel est l'apport entre la prise en charge et puis l'argent. Parce que généralement, lorsque une femme se rend à l'hôpital, d'abord c'est ce qui est exigé, c'est l'argent. Au lieu de prendre d'abord en charge la personne pour sauver la vie,
on demande d'abord l'argent.
On demande d'abord l'argent.
Oui.
J'aimerais un peu comprendre, est-ce qu'il y a un parallélisme entre les deux? Je ne sais pas. Merci.
Voilà. Nono, Madame Faïda a une question par rapport à ce thème. Et puis, nous allons prendre une autre question de l'autre côté avec Tati.
Merci beaucoup, docteur. C'est vraiment un sujet très intéressant. Vous avez parlé des 3 R et là, vous avez justifié les questions communautaires, l'accessibilité géographique et même les hémorragies. Mais par rapport à la réalité sur terrain, je crois vraiment que la pauvreté, c'est un facteur. Parce qu'il y a des femmes qui ne font jamais les consultations prénatales. Nous sommes tout le temps sur terrain dans les villages. Elles peuvent être là dès le premier mois, deuxième mois. Peut-être c'est une conception ultra utérine. Et vous voyez, elle va rester avec, elle va en mourir. Et moi, je crois que, bien sûr, il y a beaucoup de facteurs, mais le facteur lié à la pauvreté, je crois que c'est un facteur majeur.
Merci, madame. Tati, de l'autre côté.
Je suis Claudette Ilunga. Je suis en jeu d'informatique.
Oui.
Ma question est celle-ci. Pour une femme qui est atteinte du VIH, durant l'accouchement, peut-être le bébé n'était pas protégé. Et pour l'épargner dans de crises ou dans de morts infantiles, quelles sont les précautions prises pour l'épargner? C'est ma question.
Merci, Nono.
Oui, alors merci. C'est Maman Nelly Kindegou des cliniques universitaires.
Oui, Maman Nelly.
Oui, je voudrais savoir qu'en nous faire pour arrêter la mortalité maternelle au sein des femmes dans des hôpitaux des RD Congo. J'ai dit et je vous remercie.
Merci. De l'autre côté, Tati.
Je suis Bokyo Ilonga, du département de géographie, gestion de l'environnement.
Oui.
Ma question est celle-ci. Ici au Congo, nous avons vu qu'il n'y a pas vraiment un développement durable. Alors, pour remédier à toutes ces situations qui se posent, maintenant, nous sommes dans une ville où il y a toutes les institutions et que nous constatons qu'il y a des pertes de vie à cause de tous ces problèmes-là. Alors, vous, étant qu'expert, que pensez-vous à cette situation? Merci.
Bien. Nono?
Oui, merci. Monsieur Claude Loukoussa, entrepreneur et acteur politique. Ma question est de savoir, madame, compte tenu de la cause de mortalité maternelle, quel est le délai d'espacement pour une grossesse tardive chez une femme pour pouvoir consentir ou bien être aussi enceinte pour pouvoir accoucher? L'espacement pour quel délai, et puis à quel âge aussi on peut mettre fin à pouvoir accoucher. Voilà un peu ma question.
D'accord, il y a beaucoup de questions qui sont adressées à madame, à docteur Abedi Bilanda, et va répondre rapidement. Et ensuite, nous allons prendre une autre série de questions. Docteur, vous avez la parole.
Merci.
L'ingénieur Biza qui a commencé, il nous dit à Kimbanse qu'il y a 50 à 100 naissances par jour dans un centre de santé, mais les femmes sont elles sont prises en charge dans des conditions difficiles. Alors, il veut savoir, et plusieurs femmes ne suivent pas la CEPEN. Il veut savoir quelle est la ou la, les précautions à prendre pour éviter des cas de décès.
Ok, merci pour cette question. En fait, les CEPEN sont des consultations prénatales très essentielles. Une femme doit suivre la CEPEN pour bien mener sa grossesse à terme. Au cours des CEPEN, on peut essayer, on peut détecter certaines pathologies que l'on peut éviter. Et je crois que lorsque la femme suit ses CEPEN, elle reçoit un paquet de soins qui lui permet de mener sa grossesse dans des bonnes conditions. Nous avons par exemple des femmes qui ont des anémies. Elles reçoivent le fer folate, ce qui peut corriger cette anémie avant l'accouchement. Les femmes auprès de qui on détecte un paludisme, on peut les prendre en charge avant que ce paludisme devienne grave et conduise à un décès maternel ou à un avortement ou à un décès néonatal ou infantile. Donc, je crois que les CEPEN sont des services essentiel pour conduire la femme à avoir un accouchement dans des bonnes conditions, éviter certaines pathologies. Mais dire que les CEPEN sont ces services uniques pour prévenir les complications obstétricales, je ne crois pas. Les complications obstétricales sont des phénomènes qui peuvent survenir même lors de l'accouchement, sur la table de l'accouchement. Et ce n'est pas la CEPEN qui va assurer tout cela. Ce sont des services, on a tout un paquet de services d'urgence qui peuvent assurer la prise en charge de ces complications obstétricales qui conduisent directement au décès. Et ce paquet, on les appelle les soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Ce sont des soins qui peuvent aider la femme à ne pas mourir lors d'une couche ou lors de la grossesse. Et parmi ces soins, nous avons des soins appropriés pour éviter les hémorragies ou bien pour arrêter l'hémorragie lorsqu'elle survient brusquement. Et nous avons aussi des soins pour assurer des soins adéquats pour éviter des septicémies chez la femme, chez une femme qui vient d'accoucher. Parfois, elle peut accoucher dans des conditions difficiles et des conditions où l'environnement n'est pas adéquat et aseptique pour les accouchements, et il s'ensuit des infections qui peuvent conduire à une infection généralisée. Et tous ces soins peuvent aider la femme à ne pas développer des septicémies.
D'accord.
Et
Rachel de Kinshasa.
Des soins pour les filles qui avortent. Les filles qui ont des avortements clandestins et tout. Donc, au niveau de ce paquet de soins, nous pouvons donner des soins essentiels post-avortement qui permettront à la fille de ne pas décéder de suite d'un avortement clandestin.
Alors, Rachel veut savoir comment arrêter l'hémorragie avant d'arriver à l'hôpital. La femme a fait une hémorragie.
Je crois que l'hémorragie, c'est une complication que l'on arrête à l'hôpital. Et c'est un signe de danger. Un signe d'alerte qui doit faire comprendre à la communauté que dès qu'on voit un saignement chez une femme, il faut l'amener d'urgence à l'hôpital. L'hémorragie n'est pas arrêtée à la maison, elle est arrêtée au niveau de l'hôpital avec le paquet de soins que l'on donne pour traiter les complications obstétricales.
D'accord, il y a une autre Rachel qui veut savoir, lorsqu'une femme a subi les CEPEN dans un hôpital, si elle veut aller accoucher ailleurs, on refuse de la prendre et on ne l'accepte pas parce qu'elle n'a pas été prise en charge dès le départ dans cet hôpital.
Bon, ce que je peux dire, c'est que le staff, le personnel d'une structure de santé doit éviter d'avoir un comportement défavorable à la santé maternelle. une femme qui se présente sans avoir eu à mener de ses peines est un cas que l'on doit prendre en charge, même si elle n'a pas mené ses peines. Mais je crois qu'on devra encore faire de plus amples investigations avec elle pour connaître ses antécédents, parce qu'elle n'a pas suivi de ses peines. Mais cela n'est pas une contrainte pour assurer sa prise en charge dans une structure. Mais ce que nous demandons, c'est qu'une femme, dès qu'elle commence sa grossesse, elle doit fréquenter les services de ses peines pour avoir des soins appropriés.
Voilà, il y a M. Mouzi qui a parlé du parallélisme entre l'argent et la prise en charge. Lorsque la femme arrive à l'hôpital, on veut d'abord l'argent avant de la prendre en charge.
Je crois que tout travail mérite salaire et tout service doit être payé. C'est vrai que lors de l'accouchement, il y a des situations d'urgence qui font que la femme doit être prise en charge directement. Donc, une question d'argent peut se régler après la prise en charge de cette femme. Et je crois que la gratuité n'est pas de règle. On paye les services. Et lorsque la femme commence ses accouchements, on demande toujours qu'elle fasse un plan d'accouchement. Dans ce plan d'accouchement, il y a une plage où on essaye
d'aider
la femme à préparer son accouchement, même financièrement. Mais comme on vous l'a dit, nous sommes dans un contexte de pauvreté. Donc tout cela doit être préparé. Et le gouvernement aussi doit jouer un rôle dans le financement des soins de santé pour ces populations vulnérables. Je crois que des mécanismes sont en train d'être identifiés pour résoudre ces problèmes de financement des soins, surtout pour les populations vulnérables.
Voilà, Claudette a
parlé. Et quand on parle
des
populations vulnérables, oui. Ce n'est pas qu'on va donner les services gratuitement, il y aura toujours une subvention qui viendra de quelque part.
Bien. Il y a même dans certains hôpitaux où la femme est séquestrée. Elle a accouché, mais elle est séquestrée à l'hôpital. Parce
oui, c'est tout ça. Un manque de préparation, la pauvreté qui joue et tout. Donc, les parts sont partagées entre les différentes parties prenantes.
Bien. Claudette a parlé d'une femme qui souffre qui a le VIH. Si elle doit mettre au monde, quelles sont les précautions à prendre à ce moment-là?
Lorsqu'une femme a le VIH et qu'elle est enceinte, je crois que c'est l'une des causes pour lesquelles on demande que les femmes fréquentent les CPN. Au niveau des CPN, nous avons tout un service de PTM. La PTM, c'est un service qui prévient la transmission entre la mère et l'enfant. Et lorsque la femme commence ses peines à temps, elle peut être dépistée. Et lors du dépistage, on va lui confirmer si elle est atteinte du VIH ou pas. Si elle est atteinte du VIH, nous avons toute une gamme de soins appropriés pour éviter à l'enfant d'être contaminé. Donc, il y aura toutes des précautions qui seront prises pour éviter la transmission de la mère à l'enfant.
Voilà.
Donc, il est nécessaire que les femmes suivent leurs peines.
D'accord. Monsieur Claude Loukoussa a parlé du délai d'espacement de naissance pour éviter les cas de décès. Quel est le délai à observer?
Oui, les grossesses rapprochées sont des facteurs très importants dans la mortalité maternelle. Et je crois que le délai requis auprès des obstétriciens, c'est de 2 ans. Si une femme peut faire un intervalle de 2 ans, entre ces grossesses, je crois que cela lui permettrait de se reconstituer pour la grossesse suivante.
Alors, quels sont les autres éléments à observer pour limiter ou réduire sensiblement la mortalité maternelle?
Pour réduire la mortalité maternelle, le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, apporte son appui au gouvernement à plusieurs niveaux. Nous avons, au niveau des politiques et des lois, nous aidons le gouvernement à élaborer des politiques et des lois favorables à la santé maternelle. Je crois que les lois et les politiques sont nécessaires pour que les femmes puissent être prises en charge correctement, pour qu'elles puissent mener leur grossesse à bien et pour que les services de santé offrent des soins de qualité à toutes ces femmes. Et le Fonds des Nations Unies apporte son appui au gouvernement au niveau des différentes structures sanitaires pour améliorer l'accessibilité aux soins de qualité en ce qui concerne la planification familiale, l'offre du paquet de soins pour la prise en charge des complications obstétricales et aussi pour l'intégration des soins de santé adaptés aux jeunes et aux adolescents. Mmh. Nous savons que les adolescentes contribuent à une grande partie au décès maternel et que les grossesses des adolescentes sont très difficiles à gérer parce que lorsque nous avons des grossesses précoces, cela peut conduire à des faits morbides très, très graves et aussi à un décès maternel. C'est pour cela que l'UNIFPA apporte son assistance au gouvernement pour l'intégration des services de santé sexuelle et reproductive adaptés aux jeunes et aux adolescents. Parce que nous savons que les grossesses précoces et les grossesses non désirées sont des causes majeures de décès maternel auprès des jeunes filles et des adolescentes.
Bien, est-ce qu'on peut applaudir pour Dr Abedi Bilanda, chargée des programmes des soins obstétricaux d'urgence au Fonds des Nations Unies pour la population. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cet entretien avec Dr Abedi. Merci beaucoup. Et merci à vous de participer à cette émission en direct de l'ISP Gombe à Kinshasa. Émission organisée avec le soutien d'Evlisco. Nous appelons les Toumao.
Radio Capi clôture le mois de la femme avec ses deux programmes interactifs. Au Capi Service et Parole aux auditeurs, ce jeudi 31 mars 2016, de 9h à 11h à l'ISP Gombe.
Radio Capi en direct de l'ISP Gombe à l'occasion.
Bienvenue dans Parole aux auditeurs, ces cadres d'échanges citoyens.
Au programme, égalité des sexes, autonomisation de la femme et leadership féminin. Hommes, femmes et vous tous qui militez pour la promotion de la femme,
venez nombreux participer à ce rendez-vous spécial.
Merci beaucoup pour la parole. Donc, nous sommes en train de parler pas seulement de l'ISP, mais pour toutes les universités et institutions supérieures.
Bonjour Radio Capi. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole aujourd'hui. On parle...
Au Capi Service et Parole aux auditeurs, à l'ISP Gombe, ce jeudi 31 mars, avec...
Jody Daniel Kachama et J.R. Lungembo.
Barnabé,
Abraham,
j'ai une préoccupation.
Un problème ou une préoccupation?
Une préoccupation, j'ai dit.
Vas-y, je suis à votre disposition.
Dis-moi un peu, est-ce qu'à chaque fin du mois, on te paye un salaire?
Le salaire est un droit.
Un droit?
Mais tout ouvrier, après avoir travaillé, a droit à un salaire.
L'ouvrier seulement?
Pas seulement l'ouvrier, tout travailleur.
Oh, dis-moi un peu, est-ce que dans la forêt, les animaux sont-ils organisés comme nous?
Bien sûr. D'ailleurs, les lions et les rois de tous les animaux. Et l'antilope est la seule coiffeur de la forêt.
Ils ont aussi une banque qui leur fabrique la monnaie.
Mais la forêt, c'est un pays. C'est bien organisé. Certainement, doit avoir une banque.
Ouf! La banque centrale de la forêt.
Dirigée par le gouverneur La Gazelle.
Dis-moi un peu. Ah. Ils ont aussi une monnaie.
Mais quand il y a banque, il y a monnaie.
Oh. Comment appelle-t-on leur monnaie?
Franc forêt.
Franc forêt?
Ouais.
Waouh! Est-ce que les singes ont-ils aussi leur monnaie à part?
Les singes sont des contrefacteurs.
Comment ça?
Ils ont une banque privée à eux, ils pratiquent leur propre monnaie à eux.